Bienvenue dans les matins de France Culture, c'est l'heure du journal. Catherine Dutu, bonjour Catherine.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Être vacciné contre le Covid ou bien être fiché comme récalcitrant, les Espagnols auront le choix, affirme le ministre de la Santé à Madrid. Il précise que ce registre de personnes refusant de se faire vacciner sera partagé avec d'autres pays européens, alors que l'Espagne a franchi le seuil des 50 000 morts.
Et pendant ce temps en France, un conseil de défense sanitaire se tient ce matin en visioconférence autour du chef de l'État pour faire le point sur la situation sanitaire.
Et des élus du Grand Est notamment plaident pour un troisième confinement, peut-être localisé.
Trois soldats français ont été tués hier par une bombe artisanale au Mali.
Où ils étaient déployés pour la première fois, ces hommes effectuaient une mission de ravitaillement dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso. 50 journalistes ont été tués cette année, selon le Reporters sans frontières, un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'an dernier, mais bien sûr toujours trop élevé. Et ce qui inquiète à RSF, c'est de voir des journalistes assassinés en majorité, non pas dans des zones de guerre, mais dans des pays officiellement en paix. Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession.
Et puis à partir de 7h13, la question du jour, nous allons nous intéresser aux maltraitances infantiles. Elles ont été en hausse pendant le confinement. Nous en discuterons avec la pédiatre Nathalie Vabre.
370 000 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 doivent arriver aujourd'hui à Madrid, Barcelone et aux Canaries. Comme de nombreux pays européens, l'Espagne a entamé sa campagne de vaccination alors que le pays franchit le seuil des 50 000 morts du coronavirus. Le ministre de la Santé précise que les autorités tiendront un registre des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid, partagé avec d'autres pays européens. De quoi susciter une nouvelle défiance, même si la vaccination, Marilène Ballesteros, se fera toujours sur la base du volontariat.
Oui, la vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire en Espagne. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a tenu à le rappeler hier lors d'une interview accordée à la chaîne de télé La Sexta. Cependant, il y aura quand même un registre des personnes qui refusent de se faire vacciner. D'après le ministre, ce document ne sera pas rendu public et respectera toutes les normes de protection des données. Mais pourquoi établir un tel registre? Il y a quelques jours, la porte-parole du gouvernement espagnol, María Jesús Montero, rappelait qu'il s'agit d'une mesure habituel, notamment lorsqu'il est question de la vaccination des enfants et qu'elle facilite un meilleur suivi de l'état de santé. Par ailleurs, selon la secrétaire d'État à la Santé, Silvia Calzón, ce registre va permettre d'analyser les causes du refus de la vaccination dans certains groupes de la population et par conséquent d'améliorer les campagnes d'information et de sensibilisation sur les bienfaits du vaccin contre la Covid-19. Justement, qu'en est-il des réfractaires en Espagne? Eh bien, il semblerait qu'ils diminuent à vitesse grand V. Selon les derniers chiffres publiés la semaine dernière par le Centre d'investigation sociologique, le nombre d'Espagnols refusant de se faire vacciner est passé de 47% en novembre à 28% en décembre.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. L'Espagne compte près de 102 décès du Covid pour 100 000 habitants. C'est le 13e pays au monde suivant ce taux de mortalité. La France est 19e avec près de 93 décès pour 100 000 habitants. Pour faire un point sur la situation, un conseil de défense sanitaire se tient ce matin en visioconférence autour d'Emmanuel Macron, alors que des élus du Grand Est, comme Jean Rottner, président Les Républicains de la région, ou Mathieu Klein, maire socialiste de Nancy, plaident en faveur d'un reconfinement, même localisé, pour contenir une situation préoccupante. Les urgences de Troyes, Verdun et Nancy sont déjà sous tension. Chaque semaine, 12 000 nouvelles contaminations sont recensées dans le Grand Est. La région compte 240 cas positifs au Covid pour 100 000 habitants. La moyenne nationale approche les 150 cas. Autre sujet de préoccupation en amont de ce Conseil de défense sanitaire, serons-nous réellement capables de vacciner une grande partie de la population française contre le coronavirus? La campagne lancée dimanche ne concerne pour l'instant qu'une poignée de personnes âgées et de soignants. L'objectif, d'ici fin février, est de vacciner 1 million de personnes, en priorité les plus âgées et les plus vulnérables, 15 millions de Français, ensuite à l'horizon de l'été. Un défi logistique majeur, car une fois les vaccins trouvés, encore faut-il avoir le matériel pour les stocker et les injecter. Alors avons-nous suffisamment de flacons, d'aiguilles et de seringues pour pouvoir administrer ces vaccins? Élément de réponse avec Laurine Benjebria.
Les producteurs d'emballages pharmaceutiques tournent à plein régime depuis plusieurs semaines. Le groupe allemand Schott compte produire à lui seul assez de flacons pour 2 milliards de doses d'ici la fin de l'année prochaine. Son concurrent italien, Stevanato, anticipe une demande mondiale de 2 milliards de fioles en verre en plus d'ici un an. La coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, la CEPI, a ainsi commandé auprès de lui 100 millions de flacons pouvant contenir au total 2 milliards de doses. Mais elle craint un approvisionnement insuffisant et envisage des alternatives alternative au verre, comme une sorte de poche à vaccin qui pourrait renfermer jusqu'à 200 doses. Voilà pour les contenants. Pour les seringues et les aiguilles, en France, elles seront fournies par l'État, selon le syndicat des médecins généralistes, MG France. Son président, Jacques Battistoni, n'est pas inquiet. Comme la campagne vaccinale est progressive, il n'y aura pas de pénurie.
On va vacciner environ 1 million de personnes dans la première phase et on va faire 2 injections. Donc il faut 2 millions de seringues et 2 millions d'aiguilles, 4 millions si on considère qu'il faut aussi des aiguilles pour reconstituer le vaccin. Donc tout ça, ça fait des quantités qui paraissent comme ça peut-être importantes, mais qui rapportées à l'usage des seringues et des aiguilles qui est fait quotidiennement dans nos cabinets et dans les hôpitaux chaque jour, ne posent aucun problème particulier d'approvisionnement. Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude.
L'allemand Almo assure ainsi être en capacité de produire 270 millions de seringues l'an prochain et si nécessaire, 200 millions en plus en 2022. Son concurrent, l'américain Becton Dickinson, a sur lui avoir reçu des commandes pour plus d'1 milliard de dispositifs d'injection.
La Commission européenne a, elle, initié un achat commun pour ses produits associés à la vaccination, mais cela n'empêche pas les 27 de réaliser leurs propres commandes pour garantir leur stock. Au chapitre économique, à présent, Covid et confinement oblige, le nombre de chômeurs sans aucune activité inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A a augmenté de 0,9% le mois dernier. C'est une première depuis 6 mois, selon la DARES, en charge des statistiques pour le ministère du Travail. Un peu plus de 34 000 personnes sont concernées, majoritairement des travailleurs précaires qui ont perdu toute activité. Et les perspectives pour l'an prochain ne sont pas plus réjouissantes. La Banque de France table sur un pic à 11% de chômage au premier semestre 2021. Des effets à retardement logiques pour Bertrand Martineau, économiste et spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne.
Les mouvements sur le marché du travail aujourd'hui sont profondément perturbés, dans le bon sens, par les mesures gouvernementales qui visent en fait à geler un petit peu toutes les destructions d'emplois. Je pense en particulier au ralentissement des faillites, hein, du fait du gel en fait de beaucoup de procédures devant les tribunaux de commerce, et puis évidemment toutes les différentes formes de soutien à l'emploi, et puis le chômage partiel qui tend finalement à, d'une certaine manière, à mettre l'économie un peu sous cloche. Vous avez un certain nombre d'entreprises en France dont les comptes de résultats, les comptes d'exploitation sont complètement biaisés en fait, puisque vous avez essentiellement des ressources publiques de chômage partiel, vous avez des trésoreries qui sont sauvées par les prêts garantis par l'État. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que au moment où progressivement le gouvernement va retirer les aides économiques aux entreprises, les entreprises vont devoir reconstituer leurs marges, c'est-à-dire faire des gains de productivité. Et une façon souvent malheureuse de faire des gains de productivité, c'est de produire autant avec moins d'effectifs.
L'économiste Bertrand Martineau répondait à Thomas Giraudeau.
France Culture, il est 7h08, la suite de votre journal, Catherine Dutu. 3 soldats français ont été tués hier au Mali.
Dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso, la zone dite des 3 frontières, où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif. Ces 3 décès portent à 51. Le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013, dans les opérations Serval puis Barkhane. Malgré ce drame, le député LREM Jean-Michel Jacques, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées à l'Assemblée, estiment qu'il n'y a pas de risque d'enlisement dans ce conflit.
Nos partenaires européens aussi participent de plus en plus à travers une force qui s'appelle la force Takuba, hein, où un certain nombre de forces spéciales européennes s'agglomèrent pour porter des coups aux groupes terroristes armés. Mais on est sur un combat qui est long. Nos partenaires africains ont besoin de se structurer, de s'améliorer en termes de sécurité intérieure, de défense, mais aussi sur le plan économique, de façon à stabiliser leur pays.
Le député LREM Jean-Michel Jacques. En cette fin d'année, Reporters sans frontières publie son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde, avec un triste bilan, 50 journalistes tués cette année dans l'exercice de leurs fonctions, avec pour la première fois, Léopold Picot, davantage d'homicides dans les pays en paix que dans les zones de conflit.
Malalai Maiwand en Afghanistan, Ruhol Azam en Iran, Onifat Peloumi au Nigeria, Virgilio Maganes aux Philippines. 50 journalistes sont morts pour avoir exercé leur métier cette année. Pauline Hadès-Mével est la porte-parole de Reporters sans frontières.
Plus des 2/3 ont été tués dans des pays qui ne sont pas en guerre. Le Mexique, comme l'an dernier, est en tête avec 8 journalistes tués. Ils étaient 10 au Mexique l'an dernier. C'est une tendance qui est inquiétante.
Inquiétante et ciblée. Les journalistes les plus exposés sont ceux qui enquêtent. 14 journalistes ont été tués alors qu'ils travaillaient sur la corruption locale ou le crime organisé. 4 autres pour avoir dénoncé des scandales environnementaux. Les exemples d'assassinats horrifiques sont multiples. pour intimider la profession.
La décapitation d'un journaliste au Mexique, un autre découpé en morceaux, ou bien un autre journaliste en Inde aspergé de gel hydroalcoolique, puis brûlé. Nous appelons les autorités de façon régulière à agir pour leur assurer une protection. Et pour les journalistes, c'est aussi un message. Mettez vos données à l'abri, partagez-les. Essayez de travailler en consortium avec d'autres rédactions.
Une alliance entre journalistes pour empêcher de faire taire leur voix. Au Mexique, 99% des meurtres de journalistes ne sont pas résolus.
Quant au nombre total de journalistes incarcérés sur la planète, il atteint cette année, selon RSF, le chiffre record de 387. Elle s'oppose à la tutelle mettant la femme à la merci totale de l'homme en Arabie Saoudite et elle défendait le droit des Saoudiennes à conduire. La militante des droits humains, Loujain Al-Atloul, 31 ans, a été condamnée hier à 5 ans de prison et 8 mois assortie d'un sursis qui la rend libérable dans quelques mois selon sa famille. Une peine injuste selon Jake Sullivan, futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden à la Maison Blanche, contrairement à l'administration Trump, proche allié de l'Arabie Saoudite. Les experts s'attendent à ce que les démocrates américains soient plus fermes à l'égard de Riyad en raison du bilan saoudien sur les droits fondamentaux, notamment après l'affaire Jamal Khashoggi. La transition entre les deux équipes, Trump-Biden toujours chaotique. Joe Biden a indiqué hier qu'il n'avait pas suffisamment accès aux renseignements sur la sécurité nationale, un comportement irresponsable, dénonce le président élu. Toujours aux États-Unis, les vols commerciaux reprennent aujourd'hui pour le Boeing 737 après les deux accidents qui ont fait 346 morts. L'avion est resté immobilisé pendant 20 mois, mais l'Association américaine du transport aérien a donné son feu vert à la reprise des vols mi-novembre. Le temps de ce mardi 29 décembre, toujours perturbé, 9 départements ont été placés en vigilance orange. L'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme en vigilance orange. Neige verglas. Le massif central connaît toujours un épisode neigeux. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 4 et 10 degrés d'est en ouest, comptés de 7 à 11 près de la Méditerranée et jusqu'à 15 en Corse. Hervé Gardette.
Merci Catherine Dutoux. On vous retrouve à 7h30. D'ici là, à 7h25, toujours sur France Culture, bien sûr. Le reportage de la rédaction nous amènera à Bergame en Italie, premier pays en Europe touché par le coronavirus en février dernier. Les habitants veulent comprendre pourquoi le système de santé a été dépassé. Puis dans un instant, la question du jour, un sujet grave ce matin, la violence à l'égard des enfants dans le cadre familial, violence en hausse pendant le confinement.